Calade.
Calade.
Ma radio. Différente, curieuse et indépendante.
Salut Jean-François.
Salut Patrick.
Alors, pour cette chronique Nuances du Monde, tu vas nous parler de quoi cette semaine ?
Eh ben, j'ai parlé d'actualité parce que samedi 7 décembre dernier, là, tout ce week-end, hein, très récemment, après 24 ans de pouvoir, Bachar al-Assad a précipitamment quitté son pays pour la Russie qui lui a accordé l'asile politique.
On parle donc de la Syrie.
Exactement.
Actualité très chaude.
Parce que maintenant, Damas est aux mains d'une coalition de rebelles sunnites, mais la stabilité ultérieure est très loin d'être garantie.
Ouais.
Et le moins qu'on puisse dire, c'est que la chute rapide et inattendue de la capitale syrienne, aux mains des forces d'opposition sunnites, marque un tournant dans l'histoire moderne du Moyen-Orient.
Mmh.
Alors, le régime de Bachar al-Assad avait pourtant résisté à plus d'une décennie de soulèvements, de guerres civiles et de sanctions internationales depuis
le début. Toute la surprise de sa chute.
Exactement. C'était depuis 2011 que c'était un petit peu la guerre civile, quoi, un peu beaucoup même. Pourtant, il s'est effondré très rapidement en seulement 12 jours.
Ouais.
Et l'opposition a avancé depuis Idlib, dans le nord, jusqu'à Damas, sans rencontrer vraiment de résistance significative.
Mmh.
Alors, les puissances régionales sont désormais dans l'expectative. Chacun essaie d'anticiper les retombées de ce séisme.
Ouais, parce que personne n'a vu venir et donc la question c'est quel avenir on peut raisonnablement envisager pour ce pays, la Syrie, et c'est une sacrée question.
Exactement, alors avec l'effondrement du régime Assad, la Syrie se retrouve maintenant fragmentée et divisée en trois fractions quand même dominantes, chacune ayant des soutiens extérieurs et des objectifs quand même bien distincts.
Ouais, donc ça va swinguer.
Ça va swinguer. D'abord, on a les forces d'opposition syriennes, au premier rang desquelles on rencontre Hayat Tahrir al-Sham, qui est actuellement la plus médiatisée, celle qu'on voit à la télé, notamment grâce à leur leader Abu Mohamed al-Junani. Ces groupes sont soutenus par la Turquie, qui contrôle désormais le centre de la Syrie, de la frontière nord avec la Turquie, à la frontière sud avec la Jordanie.
D'accord.
Alors, bien qu'elles partagent quand même une identité religieuse commune, les factions ont souvent été en conflit entre elles déjà par le passé, ce qui pourrait entraver leur capacité future à former un gouvernement et à maintenir la stabilité du pays à long terme. Alors, au sein de ces forces d'opposition, on retrouve des anciens djihadistes issus de l'État islamique et d'Al-Qaïda, donc pas des gens forcément très cool.
Ouais.
Le fameux groupe Hayat Tahrir al-Sham, dont je parlais, d'Abu Mohamed al-Jouani, qui lui fait désormais tout pour sortir de la liste des groupes terroristes, avec une nouvelle apparence. La barbe est raccourcie, le turban est enlevé, le costume est à l'occidental.
Ouais.
Et dans Damas libéré, al-Jouani a fait passer le message à ses soldats, qui ont plutôt, eux, l'allure des talibans, quand même, se montrer quand même ouverts et souriants.
D'accord.
Mais à côté de ces anciens djihadistes, on retrouve également des groupes laïcs, tels que l'armée nationale syrienne, qui s'est séparée de l'armée Assad dès le soulèvement de 2011.
D'accord.
Alors, à côté de ça...
Donc, un ensemble un peu hétéroclite, quand même.
Assez hétéroclite, qui a pris le pouvoir, là.
Okay.
Après, on trouve quand même les forces kurdes, qui sont bien présentes. Alors, les groupes kurdes, ils contrôlent des territoires dans le nord-est de la Syrie, à la frontière de la Turquie et au nord de l'Irak. À l'est. Ils continuent de bénéficier d'un soutien des États-Unis quand même depuis longtemps, qui ont établi des bases militaires dans la région. Ce soutien, il risque d'aggraver les tensions avec la Turquie, qui considère l'autonomisation des Kurdes comme vraiment une menace pour son intégrité territoriale.
Il y a l'enjeu des Kurdes qui contestent une partie du territoire turc comme étant le leur, et là, ça remonte à des décennies, ce conflit.
Et là, c'est
donc,
chaud,
je pense que les Turcs ne voient pas d'un bon œil le groupe kurde.
Exactement. Enfin, dernier groupe, il faudra aussi compter sur les forces alaouites, qui sont les soutiens traditionnels d'Assad. Alors, les alaouites, ils étaient au pouvoir donc depuis 70, et le coup d'État orchestré par Hafez al-Assad, le papa de Bachar, ce sont des chiites hétérodoxes. Ils sont minoritaires en Syrie, puisqu'ils ne forment que 10% de la population. Et pourtant, ils ont été au pouvoir depuis 70.
Avec incroyable. D'accord.
Alors, ce sont les éléments moteurs vraiment de toutes les répressions au temps des Assad. Et aujourd'hui, les factions alaouites sont principalement situées dans les régions côtières de l'ouest de la Syrie. Et ils entretiennent des liens quand même étroits avec l'Iran, l'Irak et le Hezbollah libanais.
Puisqu'ils sont chiites,
effectivement. Très bien. Les divisions profondes entre ces trois groupes, combinées à l'absence vraiment d'un médiateur acceptable par tous, suggèrent que la Syrie pourrait être confrontée dans les prochains mois et les prochaines années à une instabilité et un conflit prolongé.
Oui, c'est pas parce que Bachar al-Assad a perdu le pouvoir que le groupe qu'il représente a disparu.
Il fait encore partie des forces présentes.
D'accord. À l'échelle régionale, qu'est-ce que ça peut avoir comme impact, cette chute de Bachar al-Assad ?
Alors, la chute rapide du régime d'Assad a de profondes implications pour les principaux acteurs du Moyen-Orient.
D'accord. Et alors, parmi ces acteurs du Moyen-Orient, certains États semblent sortir gagnants un peu de cette nouvelle donne, non ?
On a déjà parlé un petit peu. La Turquie, en premier lieu, c'est le grand gagnant, parce qu'elle a fortement soutenu les forces rebelles sunnites, qui ont profité d'un moment où le régime était particulièrement vulnérable, car ses alliés avaient chacun fort à faire de leur côté. Par exemple, la Russie, elle était omnibulée par sa guerre en Ukraine. Donc, elle n'a pas pu sauver une seconde fois, après 2015, le régime de Bachar.
Elle a autre chose à faire.
Elle a autre chose à faire, exactement. L'Iran de ce côté et ses proxys, c'est-à-dire...
Un petit souci avec Israël actuellement.
Voilà, elle a ce souci avec l'Israël, donc elle a autre chose à faire également. Donc les rebelles ont vraiment bénéficié d'une fenêtre d'opportunité qui leur a permis de prendre la capitale et issue d'une offensive vraiment éclair.
C'est peut-être la rapidité qui leur a permis justement de prendre tout le monde de vitesse, empêcher les autres de réagir justement parce qu'ils sont occupés. Après, la Turquie, elle a quand même l'épine dans le pied des Kurdes. Elle est gagnante, mais bon...
Mais elle a quand même une bande de territoire déjà dans le nord de la Syrie. Et son armée d'ailleurs combat toujours les forces kurdes syriennes.
Ah ouais, déjà.
Et aujourd'hui, avec la victoire de ses alliés et de l'opposition syrienne, la Turquie devrait étendre son influence politique et militaire en Syrie, ce qui n'annonce rien de bon, justement, pour cette minorité kurde qui lutte pour son autonomie depuis des années, comme tu l'as signalé tout à l'heure. Après, on a aussi Israël qui fait partie des gagnants.
Bah oui, bien sûr.
Parce qu'ils sont dans une position stratégique vraiment très favorable. La chute d'Assad perturbe totalement l'axe de la résistance composé de l'Iran, de la Syrie et des proxys de Téhéran, comme les milices chiites en Irak, le Hezbollah au Liban, le Hamas encore au Gaza.
La Syrie était un des États qui soutenait directement ou indirectement le Hezbollah, notamment.
Tout à fait. En approvisionnement. Ainsi, les lignes d'approvisionnement par lesquelles l'Iran a acheminé jusqu'ici son aide militaire au Hezbollah seront probablement coupées, qui va isoler le Hezbollah et l'affaiblira encore plus. D'ailleurs, pas plus tard qu'hier, l'Israël a déjà bombardé la Syrie et tenté de s'emparer totalement du Golan. Netanyahou a d'ailleurs dit que c'était son territoire désormais. Voilà.
Okay.
En outre, on pourrait rajouter que la fragmentation de la Syrie entre plusieurs factions ethniques et religieuses pourrait aussi réduire la tension régionale portée à Israël, ce qui donnerait donc la possibilité de poursuivre plus aisément ses objectifs stratégiques.
Ouais.
Après qu'Israël a accepté un cessez-le-feu avec le Hezbollah le mois dernier, le premier ministre israélien, Netanyahou, avait déjà amorcé un changement d'orientation, ce gouvernement se concentrant désormais sur la meilleure façon de contrer la menace iranienne.
Et donc, il y a sans doute aussi des perdants. C'est qui les perdants de ce changement de situation ?
Forcément l'Iran, chiite comme les alaouites.
Le camp chiite, quoi.
Qui apparaît à ce stade comme le grand perdant donc, des récents événements. Assad était vraiment un allié crucial dans le réseau régional d'alliés de Téhéran. Et l'effondrement de son régime intervient alors que d'autres partenaires de l'Iran, comme le Hamas et le Hezbollah, viennent de subir donc des dommages considérables, comme on l'a vu avec Israël. Alors l'influence régionale de la République islamique est désormais très réduite, ce qui la rend beaucoup plus vulnérable à un conflit éventuel avec Israël.
D'accord.
Enfin, on peut dire que la fragmentation de la Syrie est également synonyme de risques importants pour la sécurité des pays voisins, à savoir donc la Turquie, l'Irak, la Jordanie et le Liban. Pourquoi ? Parce qu'il risque d'avoir des flux de réfugiés très importants, de la violence transfrontalière et des tensions sectaires qui vont peut-être s'intensifier. Alors, la Turquie, par exemple, accueille déjà 3 millions de réfugiés syriens et ces gens, on ne sait pas ce qu'ils vont faire. Est-ce qu'ils vont retourner en Syrie ou pas, finalement ?
Et on avait vu aussi, avec la chute du gouvernement de la Libye, comment il s'appelait déjà ?
Kadhafi,
voilà, que la situation d'instabilité avait été extrêmement forte.
Exactement.
Et c'est souvent... base de perturbations très fortes pour la région.
Et on peut s'attendre à ce genre de choses aussi en Irak et au Liban, d'ailleurs. L'instabilité pourrait exacerber des situations politiques et économiques déjà très fragiles. Et on peut parler même de balkanisation de la Syrie, selon des critères ethniques et religieux. J'ai déjà parlé de sunnites et de chiites, par exemple.
Bien sûr.
Voilà. Ça pourrait encourager d'autres groupes à se rebeller contre les gouvernements pour obtenir leur propre autonomie.
D'accord.
Et ça risque de renforcer les divisions et de prolonger le conflit dans toute la région.
D'accord.
Donc on pourrait conclure en disant que si de nombreux Syriens ont célébré la chute d'Assad, il reste à voir si leur vie s'améliorera significativement.
C'est une question.
En l'absence d'un gouvernement unifié et internationalement reconnu en Syrie, on peut y mettre l'hypothèse qu'il est très peu probable que les sanctions soient levées contre ce pays-là, ce qui va continuer d'aggraver les effets étouffants sur une économie syrienne qui est déjà très dévastée et qui aggraverait la crise humanitaire et alimentant l'extrémisme.
Très bien, merci pour ce point géopolitique d'actualité, Jean-François.
Merci, Patrick.
À plus.
À plus.
Prenons le temps d'en parler. Prenons le temps d'écouter.
Calade, ma radio.